Mondial Sport sur RFI. Cédric de Oliveira.
Bonsoir, chers auditeurs de RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous avez bien raison, c'est parti pour une demi-heure de sport. Avec beaucoup de football africain, c'est normal, on disputait la fin du tour préliminaire, retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Ça passe pour les Tchadiens de l'Export et les Togolais de l'AS Sekara. En revanche, leur rêve est terminé pour les Burkinabés du FC Raimo. On ira aussi en Angleterre, la défaite surprise de Tottenham, la victoire tranquille de Manchester City et Liverpool tout en haut du classement. Philippe Auclair nous dira tout sur ce week-end de Première Ligue. Enfin, clap de fin pour Teddy Tamgho, le triple sauteur français a mis fin à une carrière faite de haut et de bas. On en parlera avec notre spécialiste de l'athlétisme, Christophe Jousset. Mais comme promis, place d'abord aux Coupes d'Afrique et comme hier soir, on accueille Martin Guez. Bonsoir Martin.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Honneur à la Ligue des Champions et on commence par cette première, la qualification des Tchadiens dès l'export. On en parlait dans les titres.
Eh oui, les électriciens de N'Djamena qui passent un tour en Ligue des Champions pour la toute première fois grâce à leur victoire 2-0 face aux Gabonais du cercle Mberi Sportif. Après le match nul 0-0 à l'aller, succès arraché en seconde période après un premier acte à nouveau timide. L'entraîneur Omar Francis a dû secouer ses troupes à la pause.
Et les gars étaient trop crispés et dans le briefing à la deuxième partie, je les ai remontés un peu et puis c'était parti. On ne peut pas se jeter, on a notre système de jeu, on a dit qu'on doit garder jusqu'en deuxième partie pour exploser. Et les gars ont respecté le conseil et puis je suis fier. On a un objectif, d'aller jusqu'en poule. Là, on joue match par match.
Omar Francis avec Saint-Yves de Zabet Chouadeng. Première historique donc pour l'export qui seront gâtés autour de cadrage puisque les Tchadiens affronteront le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis.
Et ce sera une autre paire de manches. Ce tour préliminaire de la Ligue des Champions qui permet, Martin, à certaines équipes méconnues de briller.
Et oui, une vitrine pour sortir de l'ombre dont n'a pas vraiment profité le club de Pamplemousse à l'île Maurice qui a manqué de jus face aux voisins malgaches de Fossa Sports. Ouais, j'étais obligé. Fossa Juniors, pardon. Ça me fait dire des bêtises. Match nul un partout. Fossa Juniors qui se qualifie pour le tour de cadrage après son succès 1-0 à l'aller et qui affrontera le TP Mazembe au prochain tour. Et puis deux autres formations peu connues qui s'affrontaient ce soir. C'était presque un derby et les Togolais des conducteurs de Kara avaient sorti le pare-buffle pour dominer les Béninois des Buffles de Borgou. Je vais toutes vous les faire, Cédric. Ouais. Une réalisation tardive de Yandouti Richard Nan à la 82e minute. 1-0 au retour après le match nul 1 partout à Parakou. Une occasion de briller que n'a donc pas manqué la SCK qui a profité de cette vitrine qu'est la Ligue des Champions pour faire parler de cette équipe peu habituée à la lumière des projecteurs. Reportage au Togo de Komlo Eklou.
Pour de modestes clubs comme la SCK, Association Sportive des Chauffeurs de la Kara et Buffles de Borgou qui évolue dans des championnats peu connus, la Ligue des Champions est une véritable aubaine. D'abord pour le pays d'où proviennent ces clubs. Manissa Pou, l'attaquant de l'ASCK.
Oui, on parle dans un premier temps de Kara, mais déjà cette compétition dépasse Kara. Je pense que ça dépasse aussi, si je peux le dire, la nation, puisqu'on parle d'une compétition internationale.
Ensuite, pour les entraîneurs et joueurs qui sortent de l'anonymat, Haruna Hamidou, entraîneur de Buffles de Borgou.
Imaginez un peu quand un entraîneur joue avec une équipe cette phase de tour préliminaire, c'est beaucoup plus de visibilité et pour lui, pour son profil, pour le club, pour en tout cas les joueurs également.
Jean-Louis Koudjounou, consultant sportif, le reconnaît. À force de disputer des rencontres dans le cadre de cette Ligue des Champions, les clubs progressent.
Le championnat local dans nos pays n'ont pas beaucoup de valeur. Maintenant, quand les équipes la jouent 4, 5, 6 matchs en Ligue des Champions, ça gagne en expérience et surtout la maîtrise au niveau des tactiques. C'est ça qui donne l'avantage à ces équipes-là quand elles participent à la Ligue des Champions.
C'est aussi l'occasion pour les meilleurs joueurs d'être sollicités par de grands clubs. Jean-Louis Koudjounou.
Il y a beaucoup d'agents de joueurs dans les tribunes. C'est pourquoi je disais tantôt, on met les joueurs en vitrine et les agents de joueurs sont là pour prendre des notes. C'est l'avantage de la Ligue des Champions, c'est placer les joueurs dans des clubs africains, Afrique blanche ou à l'extérieur, c'est-à-dire hors du continent.
L'aspect financier n'est pas à négliger non plus, comme le reconnaît Honoré Mawena Kessé, président de ASCK.
Il y a des retombées comme les gens le disent. En tout cas, ça peut nous aider aussi à faire une bonne équipe dans l'avenir.
Des retombées financières.
Mais oui, oui, exactement. C'est très important pour avoir des pépinières, pour avoir des bons joueurs, pour une très, très, très vraie équipe compétitive.
En 2017, Aestego Port de Lomé a eu d'importantes retombées financières en entrant en phase de poule, mais a aussi placé dans différents clubs à l'étranger 8 joueurs, comme l'a éclos Lomé RFI.
Alors Martin, autre petit pousset sur le continent, vainqueur 1-0 à l'aller, les Burkinabés du Raïmo FC se sont fait croquer par un gros du continent cette fois.
Oui, croqué par les Nigérians d'Animba, des habitués de la coupe, enfin des habitués des coupes d'Afrique. Ils avaient de l'appétit ce soir, victoire 5-0 lors de ce match retour. Retour sur terre aussi, après le doublé coupe championnat et la victoire au match aller pour Raïmo dans l'élite burkinabé depuis 3 ans. Le club de Bobo Dioulasso participait pour la première fois à une coupe d'Afrique et ne gardera pas forcément un bon souvenir de ce voyage au Nigeria. Il n'y a pas un bon souvenir non plus du carton rouge très précoce d'Issouf Zonon dès la 8e minute. Un carton rouge qui reste un petit peu en travers de la gorge du président du club, Raïm Ouédraogo.
Une équipe aussi jeune, car ils ne se sont pas préparés dans la tête pour ça. Donc ça a beaucoup joué sur nous dans les dispositifs, dans la façon de jouer. Et en plus, vous avez vu le terrain aussi avec la pluie. Un terrain hybride, c'est pas facile pour eux. C'est la première fois de jouer sur un terrain comme ça. Au fait, il faut toujours rêver, il faut toujours continuer à travailler sur ses ambitions. Comme on dit, Eyimba, c'est un très, très grand club. On ne doit pas pleurer d'avoir perdu contre Eyimba. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de ces matchs pour pouvoir progresser. Non, le projet, c'est continuer à travailler, c'est chercher à être champion encore pour découvrir encore cette Ligue des champions l'année prochaine.
Voilà, malgré l'arbitre, malgré la pluie, Raïm Ouédraogo a envie de regoûter à la Ligue des champions. Il était au micro de Bright Abiola, Enyimba qui affrontera les Soudanais d'Al Hilal autour de cadrage.
Un autre habitué des Coupes d'Afrique a eu très chaud, mais s'en est finalement sorti. Il s'agit du club congolais de l'AS Vita Club.
Oui, qualification de justesse après le 0-0 de la première manche. Les Quinois l'emportent 1-0 face aux Camerounais de l'USM Loum, grâce à un but à l'heure de jeu de la recrue ghanéenne Zakaria Moumouni au stade des Martyrs de Kinshasa. Victoire poussive, mais victoire logique pour l'entraîneur quinois Florey Bengue.
L'équipe camerounaise n'a pas une seule occasion. Nous, on en a. Donc finalement, la qualification est méritée, mais on doit travailler ce secteur offensif qui fait qu'on puisse être beaucoup plus calme quand on a une domination aussi nette. On ne change pas, on sait qui on est et on ne va pas changer notre façon de faire pour l'instant. On a envie de rentrer dans la phase de poule. C'est notre premier objectif.
Ori Bengue avec Kaboulo Mona Kaboulo, les dauphins opposés au prochain tour au conducteur de Kara, le petit poussé dont on parlait tout à l'heure.
Un peu comme le Vita Club, le Oroya de Conakry a lui dû aussi s'employer, mais il est passé également dans ce tour préliminaire.
Et oui, quart de finaliste l'an passé, les Guinéens ont pris goût à la Ligue des Champions, le strict minimum là aussi face au stade malien. Après le match nul 1-1 à Bamako, Oroya s'impose simplement 1-0 au stade du 28 septembre grâce à un but sur coup franc du Burkinabé Nikiema Draman à la 23e minute. La force de l'habitude pour l'entraîneur Didier Gomez d'Arossa.
Voilà, aujourd'hui, comme au match aller, je crois qu'on a fait quand même parler l'expérience. Il y a eu des situations chaudes, mais bien évidemment, on a souffert en deuxième mi-temps. On a trop reculé, peut-être inconsciemment. Mais voilà, c'était un match très compliqué, on le savait, face à un adversaire très compliqué qui fait toujours de belles choses dans les compétitions africaines. Et ce soir, on est très heureux de porter encore très haut les couleurs du football guinéen pour le prochain tour.
Des propos recueillis par Tchernovia Diallo dans les autres rencontres. Les centrafricains de Tempête Mokaf coincent face aux Libyens d'Al Nasser. Victoire 1-0 à l'aller, mais les joueurs de Bangui s'inclinent 3-1 au retour. Ça passe aussi pour les Mauritaniens de Ouadibou. 1-0 face aux champions de Côte d'Ivoire, la société Omnisport des armées, après le match nul 0-0 à l'aller. Également qualifiés les Angolais du Petro de Luanda, les Kenyans de Gormaya, les Équato-Guinéens de Canosport, encore les Ghanéens de la Chenti Kotoko.
Voilà pour les qualifiés du jour, Martin, qui rejoignent notamment Génération Foot. Les Sénégalais, on vous en parlait hier, qui ont renversé une situation bien mal embarquée.
Et oui, défait 1-0 au match aller par les Libériens des LPRC Oilers. Les académiciens ont renversé la vapeur, 3-0 au retour. Le champion du Sénégal, qui n'était pas vraiment au top de sa forme. Et pour cause, contrairement à d'autres pays en Afrique, le championnat n'a pas repris pour les Dakarois, pour des problèmes d'argent. Et le dernier exercice s'est terminé au mois de mai. Voilà qui commence à faire long. Et la différence d'état de forme s'est vue, comme a pu le remarquer notre correspondant Babacar Fall.
C'est difficilement que Génération Foot a préparé ce tour préliminaire de la Ligue des Champions puisque le championnat sénégalais n'a pas encore démarré. L'entraîneur de Génération Foot, Djibi Fall.
C'est pas facile. Bon, même depuis les ans, se plaignait de jouer 4 matchs et par rapport aux équipes, autres équipes africaines qui jouent 10 matchs de championnat ou bien 11 matchs avant le démarrage. C'est le football sénégalais qui est là, comme ça. Donc on va faire avec et essayer maintenant de s'en sortir.
Le champion en titre du Sénégal s'en sort bien donc en se qualifiant pour le prochain tour de cette Ligue africaine des champions. Et au prochain tour, Génération Foot va croiser un certain Zamalek du Caire, 5 fois vainqueur de l'épreuve. Match prévu mi-septembre et pas sûr que le championnat sénégalais démarre à cette date. Et ça, ça embête la direction de Génération Foot, le chargé du marketing et de la communication du club, Talafal.
C'est un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation du football sénégalais. Donc je pense qu'après avoir fait au moins une décennie de championnat de Ligue Pro, il est temps au moins de mettre une nouvelle structure en place pour essayer au moins de réfléchir sur les voies et moyens de pouvoir au moins rivaliser avec les meilleurs clubs africains. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a un problème qui se pose par rapport aux moyens dont disposent les présidents de clubs qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui n'arrivent plus à payer les joueurs comme il se doit.
La Ligue de football reconnaît le préjudice fait aux représentants du Sénégal en Ligue des champions. Ousmane Tiané Sarr, le trésorier de la Ligue.
C'est une situation qui handicape Génération Foot, le dernier de nos représentants sur la scène africaine. Mais à y voir de plus près, c'est vrai que c'est une des premières conséquences, mais c'est aussi handicapant pour l'ensemble des 28 clubs de la Ligue professionnelle de football. Alors, il urge vraiment de trouver une solution. Ça demande juste une volonté de vouloir décanter la situation.
Et c'est un problème d'ordre financier. Nous sommes déficitaires. Et nous ne pouvons plus continuer à faire du foot local sous perfusion en quelque sorte.
L'argent, c'est ce qui a manqué aussi au Tengue FC, le club de la ville de Rufisque, vainqueur de la Coupe du Sénégal, et qui devait jouer la Coupe de la Confédération, mais qui a dû renoncer. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Génération Foot qui affrontera donc le Zamalek au tour prochain. Le Zamalek qui n'a pas fait de détails face aux Somaliens de Dekedaha. 7-0 à l'aller, 13-0 au retour. Ça fait 13-0 sur les deux matchs.
6-0 au retour du coup.
Oui, pardon, je vous ai dit une bêtise.
7-0 à l'aller, 6-0 au retour. Donc ça fait 13-0 au total. Effectivement, on va dire...
Les valises sont pleines.
Voilà. Alors voilà pour la Ligue des Champions. On passe rapidement à la Coupe de la Confédération qui donne des ailes à ceux qu'on nomme les Pélicans.
Et oui, les Gabonais qui s'imposent à l'extérieur face aux Congolais de l'Union de Maniema, victoire 2-1 pour les Pélicans. Ça passe aussi pour les Tchadiens de Maranatha, je vais y arriver. Après leur succès à l'aller, les Tchadiens obtiennent le nul 0-0 Liberia Ship Corporate Registry. Pas de miracle en revanche à Brazzaville pour l'Étoile du Congo, battue 4-1 au match aller, 1-0, encore une défaite au retour face aux Égyptiens du FC Pyramide, les Égyptiens qui affronteront les Algériens de Belouizdad autour de cadrage. Et puis les gendarmes de Niamey s'arrêtent là, battus 2-0 par les Libyens d'Al-Ittihad.
Eh bien merci Martin, intraitable, donc intarissable, pardon, sur ces coupes africaines. Allez, on passe à l'Angleterre dans Mondial Sport, troisième journée de Première Ligue qui s'est conclue aujourd'hui. Pour en parler, on rejoint tout de suite notre correspondant en Angleterre, donc Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à vous.
On va commencer ce point anglais par la surprise du jour, cette défaite de Tottenham à domicile face à Newcastle.
Oui, une défaite pour le moins inattendue. Une équipe de Tottenham qui, même si elle avait été très chanceuse, restait sur un nul à Manchester City. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourront dire ça. Et puis tout compte fait, on a assisté à un non-spectacle, en quelque sorte, au nouveau White Hart Lane, où cette équipe de Tottenham a dû s'incliner 1-0. Et c'était pas un score si scandaleux que cela. On a été très surpris par le manque d'imagination de cette équipe des Spurs, hein, des finalistes de la Ligue des Champions. C'est une véritable contre-performance. Et sur le terrain, également au niveau comptable, Tottenham se retrouve 7e du classement. Et c'est surtout perdre face à une équipe de Newcastle qui fait partie des favoris pour la relégation. Et perdre de façon logique, qui va faire très très mal à Mauricio Pochettino.
Alors Tottenham, qui avait réussi à faire match nul la semaine dernière face à Manchester City. City qui, de son côté, a retrouvé la victoire à Bournemouth.
Oui, et logiquement, même si ça a été dans la difficulté, parce que c'est une équipe de Bournemouth bon, qui était vraiment hyper motivée pour la réception du champion d'Angleterre, qui a su revenir dans la rencontre, mais finalement s'est inclinée face à une équipe de Manchester City qui a montré encore une fois qu'elle n'était pas parfaite, mais elle avait de telles dispositions en attaque qu'elle pouvait surmonter ce genre de petites difficultés qu'elle pourrait rencontrer de temps à autre en déplacement. Et je dois absolument insister sur le match absolument éblouissant d'un certain David Silva,
Hein, il est pas tout jeune, mais voilà, pas tout jeune, mais toujours là.
Il est pas toujours là. 400e match pour Manchester City, au cœur du jeu en permanence. On se souviendra du doublé de Kun Agüero, bien évidemment. On se souviendra d'un nouveau but pour Raheem Sterling qui, avec 5 buts, est désormais en tête du classement de la Golden Boot anglaise avec l'étonnant Teemu Pukki, vous savez, l'attaquant finlandais de Norwich. Mais David Silva était au cœur de tout ce que Manchester City a fait de mieux et le résultat était là, une performance parfois compliquée, mais Manchester City se replace seul en deuxième position du championnat d'Angleterre, derrière, hein, qui vous devinez.
Et derrière Liverpool, justement, on en parlait hors antenne tout à l'heure, vous me disiez c'était assez rare que si tôt dans la saison, eh bien, une équipe arrive à se détacher en tête du classement. Liverpool, donc 3 victoires en 3 matchs, leader de cette première ligue, et impressionnant hier face à Arsenal.
Ouais, impressionnant parce que on sait très bien que c'est une équipe de Liverpool qui n'est pas au top. On sait très bien que c'est une équipe de Liverpool qui a récupéré Sadio Mané, bon, après la coupe d'Afrique des Nations, qui a récupéré Roberto Firmino après la Copa América. Mohamed Salah n'était pas en super forme non plus. Beaucoup d'autres joueurs étaient un petit peu à la limite. Physiquement, on se demandait comment ça allait se passer. Et ce qu'on voit, c'est une équipe de Liverpool qui, même si elle n'est pas au top, est toujours aussi impressionnante dans l'intensité qu'elle donne à son jeu. Jürgen Klopp a eu cette phrase, il a dit « L'intensité, c'est notre identité ». La rime était jolie et je pense que la description était absolument parfaite. Ils ont asphyxié une équipe d'Arsenal qui est une bonne équipe d'Arsenal, qui est une équipe en progrès, qui était venue avec un plan de jeu qui avait du sens, qui leur a posé des problèmes en première période, hein, à l'occasion notamment de Nicolas Pepe. Arsenal a été convaincant, mais Arsenal, d'un autre côté, a subi la loi d'une équipe qui nous impressionne de plus en plus, et elle nous impressionne de plus en plus parce qu'elle était peut-être moins impressionnante, si vous voyez le paradoxe, à savoir qu'elle a les moyens maintenant de gérer ses temps faibles. Ils sont encore en train de trouver leur marque, mais ils ont réussi leur coup. Ils sont maintenant 3 victoires en 3 matchs, en tête du championnat d'Angleterre. Et comme vous le disiez, c'est rare qu'en Angleterre, on ait un seul leader au bout de 3 journées. Alors attendez, hein, c'est un leader de 2 points vis-à-vis de Manchester City,
oui, c'est un petit peu
de 3 points vis-à-vis d'Arsenal. Donc c'est vraiment hyper tôt, mais en tout cas, on attendait Liverpool au tournant pour le début de saison et ils sont bien présents.
Alors Liverpool donc qui est présent. Un mot Philippe également sur Manchester United très rapidement.
Oui,
c'était pas terrible ce qu'on a vu à Old Trafford.
Franchement non. Et on s'est beaucoup arrêté bien évidemment sur le fait que Rashford a manqué un penalty poteau rentrant, si vous voulez. Mais ce qui est surtout, je pense, inquiétant pour les fans de Manchester United, c'est le fait qu'on a vu une équipe mancunienne qui manquait vraiment d'inspiration, qui manque d'un meneur de jeu, qui manque d'un créateur, qui manque d'inventivité. Et c'est ça le plus inquiétant pour les fans de Manchester United. On n'a quasiment rien vu de cette équipe. Mauvaise journée pour Manchester United, bien évidemment, mais qui confirme un petit peu les inquiétudes qu'on avait en début de saison.
Oui, défaite logique donc pour United. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Auclair. On a été très complet donc sur cette 3e journée de Première Ligue. Bonne soirée à vous et à bientôt dans Mondial Sport.
À très bientôt.
Voilà un mot du championnat de France à présent. Le PSG s'est bien repris en disposant facilement de Toulouse 4-0. Ça vient de se terminer avec la première titularisation du Sénégalais Idrissa Gueye au milieu de terrain et l'entrée en jeu d'Éric Maxime Choupo-Moting, auteur d'un doublé. Le Camerounais qui a remplacé Edinson Cavani en première période et qui l'a donc parfaitement suppléé. Choupo-Moting qui vit une relation particulière avec les supporters parisiens. Chouchou du public, il est aussi raillé de temps en temps, mais en tout cas lui se sent bien au PSG.
Je vis bien, je vis ma vie, je suis content avec l'équipe et je m'entends bien avec tout le monde et j'adore aussi bien sûr les supporters du PSG. Après, chacun a le droit d'avoir son opinion de chaque joueur. Ça fait partie du football professionnel et après moi, je me concentre sur moi, j'essaye de me bien entraîner et après si j'ai l'occasion de jouer, j'essaye de faire mon mieux. Aujourd'hui, heureusement, c'est normal quand tu es un joueur offensif, on attend des buts ou des passes décisives et heureusement, ça a bien marché aujourd'hui et ça, c'est le plus important pour moi.
Voilà le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting qui a donc remplacé Edinson Cavani blessé, Kylian Mbappé aussi, à voir si ses blessures persistent, mais ça pourrait avoir une incidence sur le début de saison du PSG. Paris désormais 3e de la Ligue 1 derrière Lyon et Rennes, les Bretons leaders après une victoire 2-0 à Strasbourg. Mbaye Niang a marqué. À noter aussi le match nul de partout entre Monaco et Nîmes. Puis j'ai un petit peu de temps pour vous parler du championnat d'Espagne et de la belle victoire du FC Barcelone 5-2 face au Betis Séville. Italie, avec notamment un doublé d'Antoine Griezmann qui a été étincelant, le Français qui a fait aussi une passe décisive. Nabil Fekir avait ouvert le score pour les Andalous, succès aussi de l'Atlético de Madrid, 1-0 à Leganés. Comme prévu, on va maintenant parler d'athlétisme. On l'évoquait hier dans Mondial Sport, la fin de carrière de Teddy Tamgo à l'occasion du meeting de la Ligue de Diamants de Charletti à Paris. Bonsoir Christophe Jousset.
Bonsoir Cédric.
Vous étiez donc à Charletti hier et vous avez assisté à quelques performances de choix au cours de votre carrière, de l'un des meilleurs triples sauteurs de l'histoire, Tamgo. Ce sont des médailles, des records, mais aussi une incroyable succession de blessures. Le temps a passé et à 30 ans, eh bien la retraite du Français, elle était devenue inévitable.
Oui, on parle d'ailleurs que la plupart de ceux qui nous écoutent pensaient que Teddy Tamgo était déjà à la retraite, mais non, il y a quelques mois encore, il tentait un énième retour. Le 1er février dernier, à Val-de-Reuil, en Normandie, il retombait à 16,45 m. Résultat encourageant, mais deux semaines plus tard, il renonçait au championnat de France pour une triple contracture. Encore une sortie au mois de mai, à Angoulême, et puis plus rien jusqu'à la fameuse annonce ce samedi, et ces quelques mots au micro de nos confrères de RMC Sport.
Il n'y a plus l'envie, c'est pas une question d'âge ni une question physique, c'est vraiment quelque chose de psychologique. Mon envie n'est plus là, j'ai envie de faire autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai par exemple fait le meeting de Val-de-Reuil, je n'ai pas ressenti ce truc en fait que j'avais avant. C'est-à-dire cette petite folie, cette excitation. Il manque ce petit truc, cette folie que vous aviez dans votre jeunesse qui vous a poussé justement à faire de grosses performances. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était compliqué, j'ai dit non. On va laisser tomber, ma place elle est de l'autre côté.
Teddy Tamgo, l'athlète qu'on va tenter de resituer, Christophe, un véritable phénomène du triple saut.
Oui, une pépite qui s'était révélée en 2008 en devenant champion du monde de junior. Il est alors entraîné par Jean-Hervé Stievenard, l'homme qui avait déjà contribué à l'émergence de la double championne olympique camerounaise, Françoise Mbango. Les parents de Tamgo, camerounais, sont arrivés en France dans les années 70. Teddy Tamgo confirme son talent chez les grands, d'abord en salle, champion du monde à Doha en 2010, avec en prime un record du monde qu'il portera à 17,92 m l'année suivante, quand il sera sacré champion d'Europe à Paris, la ville où il est né. Son record du monde en salle tient toujours d'ailleurs. Puis ensuite, eh bien en plein air, des concours de très très haut niveau et un chef-d'œuvre à l'été 2013 à Moscou. Il est champion du monde avec 18,04 m. Il est alors le troisième sauteur de l'histoire à atteindre les 18 mètres. À cette époque, le meilleur de tous les temps, le Britannique Jonathan Edwards, 18,29 m, dit de Tamgo, quand il est dans cette forme-là, c'est peut-être la plus puissante boule d'énergie de tous les temps. Aujourd'hui, il est essentiellement entraîneur du Burkinabé Hugues Fabrice Zango, par exemple, le cinquième mondial cette saison. Zango qui, hier, à Charletti, réagissait comme ceci à la retraite de Tamgo.
Ah, forcément, c'est une perte pour l'athlète parce qu'il a fait des choses, mais c'est vraiment... Il y a 30 ans, il aurait pu continuer un peu, quoi. Mais bon, à cause de son capital de blessure, c'est assez compliqué. Donc, il faut reprendre le flambeau. Et le flambeau, actuellement, c'est pour le moment les Américains qui le tiennent, mais plus pour très longtemps.
L'ambition qui transparaît dans les propos de Zango au micro de Thomas Moulin, la même que celle qu'avait le jeune Tamgo quand il se plantait devant Jonathan Edwards en lui disant « Tu as le record du monde, mais je suis là pour le battre ».
Malheureusement pour Tamgo, il y a eu tout au long de son parcours quelques phrases qui est surtout beaucoup de blessures.
Oui, la liste est édifiante. 2011, fracture de la malléole. 2012, excroissance osseuse. 2013, fracture du tibia. 2015, rupture du tendon d'Achille. 2016, fracture au fémur. En tout, 6 opérations en 5 ans. Ouais, il n'y a pas de quoi rire pourtant. 6 opérations en 5 ans qui l'ont privé notamment de ce grand bonheur qu'est une participation aux Jeux Olympiques. C'est la trajectoire d'un phénix. Un phénix dont la carrière a aussi pâti de 2 suspensions pour des raisons bien différentes. D'abord, une affaire de coups et blessures sur une jeune athlète. Une affaire qui causera la rupture avec son équipementier, une affaire qui renvoie sans doute aussi à sa jeunesse. En banlieue parisienne, il dit lui-même qu'il avait failli à l'époque tomber dans la délinquance. L'autre suspension est la conséquence de 3 no-shows, c'est-à-dire 3 moments où les inspecteurs antidopage ne l'ont pas trouvé à l'endroit où il était censé être. Tamgo a toujours revendiqué une part de folie, mais sur les sautoirs, il est très respecté, y compris par le double champion olympique américain, Christian Taylor, qui n'était pas le dernier à venir l'enlacer hier au
au moment où il a officialisé sa retraite.
Eh bien, merci Christophe Jousset pour ses explications sur Teddy Tamgo. Bonne soirée à vous. Vous n'avez pas fini de nous parler d'athlétisme dans Mondial Sport, puisque les Mondiaux, ce sera à Doha, au Qatar.
Et dans
ce
un
sera
mois.
À vivre sur RFI du 27 septembre au 6 octobre.
Absolument.
Merci en tout cas Christophe. Allez, on a un petit peu de temps encore pour parler des Jeux africains. Martin Guez, retour à Rabat au Maroc après le taekwondo hier soir. On s'intéresse cette fois-ci au basket.
Et oui, du basket, oui, mais sous une forme un petit peu particulière. Il ne se joue pas à 5 contre 5 comme on en a l'habitude, mais du basket 3 contre 3, nouveau format qui sera introduit aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui faisait aussi ses grands débuts aux Jeux africains. Le tournoi masculin a été remporté par Madagascar, celui féminin par le Nigeria, une discipline appréciée des jeunes qui gagne en notoriété et en popularité, y compris parmi les joueurs du classique 5 contre 5, reportage de notre envoyé spécial Christophe Diremzir.
R&B, public de tous âges, l'ambiance sur le site du basket 3 contre 3 tranche avec le cadre feutré d'un palace voisin. Dans les tribunes, beaucoup de curiosité devant cette discipline en vogue et ses règles spécifiques. Une seule période de 10 minutes disputée sur un demi-terrain contre 4 en salle. Le match s'arrête à 21 points pour une équipe, 1 point par panier, 2 s'il est inscrit au-delà de la ligne des 6,75 m et seulement 12 secondes de possession de balle. Un principe exigeant physiquement et tactiquement, estime Mamoutou Koné, l'entraîneur des sélections masculines et féminine du Mali.
L'intensité est là, c'est énorme, énorme, ça part à 120 à l'heure. Il faut être réellement endurant, résistant. Des gens qui sont capables d'avoir des cardio très très élevés, donc volume de OD maximum, c'est ces gens-là qui peuvent vraiment tenir à cette discipline. Quand on te donne les ballons, les 12 secondes vont te prendre. Donc là, tu es obligé de jouer avec les autres, de s'appuyer avec les autres, tirer. Et raison pour laquelle vous verrez des gens ici qui ne peuvent pas être grands basketteurs dans le basketball à 5, mais qui s'expriment parfaitement sur un terrain de basket à 3.
La spécialité a commencé à percer en Afrique en 2014. Depuis la première CAN en 2017 à Lomé, la FIBA Afrique en a fait un vecteur de croissance de la pratique du basket, car elle répond à l'ère du temps, moins de contraintes matérielles et donc plus de facilité à l'implanter. Olivier Cambiré, responsable du 3 contre 3 au sein de la Confédération Continentale.
Le 3 contre 3 est pour nous un outil pour pouvoir développer dans les régions les plus reculées des fédérations nationales. Aujourd'hui, par exemple, nous avons l'Ouganda qui est un pays qui est lésé au niveau du 5x5, mais qui a une exposition mondiale au niveau du 3x3. Alors on peut citer aussi les pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire et également le Botswana qui participent régulièrement à des tournois internationaux et de par leur performance, le basketball est en train de revivre dans ces pays.
Mais si elle permet à certains de franchir un cap dans la pratique du basket, le 3 contre 3 peut aussi servir à des habitués de la version classique et obtenir davantage de chances d'intégrer une sélection nationale. Sephora Kayolo, jeune intérieur de la RDC, d'ordinaire en 5 contre 5, voit d'un très bon œil ce débouché supplémentaire qui se développe petit à petit dans le pays.
Au championnat local, on a quand même des compétitions à 3x3. À chaque fin de saison, il y a la fédération qui organise le tournoi de 3 contre 3 pour que les athlètes puissent avoir au moins l'idée de ces championnats au cas où il y a sélection d'équipe nationale. C'est ma première compétition en 3x3. Je pourrais peut-être préférer les 3x3 puisque vie au niveau. Quand il y a sélection de 55, il y a beaucoup de pros qui viennent. Et nous, les locaux, on n'a pas vraiment ce temps. Donc, on en profite de venir participer au 3x3 pour se faire voir à l'extérieur et puis montrer nos talents.
Des talents que les futurs spectateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ne verront pas, car l'Afrique du 3 contre 3 est encore loin du reste du monde et les modalités de qualification ne garantissent pas de quota minimum par continent, mais de la cour d'école à la cour des grands, le chemin du basket de rue semble de plus en plus court. Christophe Diremzian, Rabat, RFI.
Christophe Diremzian, qu'on retrouvera toute cette semaine pour la fin de ces Jeux africains, avec notamment le début de l'athlétisme ou encore de l'escrime.
Eh bien voilà, merci Martin Guez, c'est fini Mondial Sport pour ce dimanche. Merci à Fabrice Violet qui m'a aidé à préparer cette émission. Si vous avez aimé, si vous avez moins aimé aussi l'émission, vous avez le droit, hein, vous pouvez réagir sur la page Facebook de Mondial Sport, mais aussi sur les comptes Twitter et Instagram. Mondial Sport sera de retour samedi et dimanche prochain. Ne manquez pas demain Radio Foot International avec toute l'équipe d'Hugo Moissonnier, ce sera à partir de 15h10 temps universel. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée sur RFI. À bientôt.